Imaginez ça, un homme se fait prendre en état d'ébriété dans sa voiture, pas une fois, là, une couple de fois, se fait imposer un antidémarreur éthylométrique et le garde pendant 3 ans, 8 mois, finalement l'enlève, puis quelques semaines après, eh bien, il frappe un véhicule d'urgence par derrière. Il roulait à 161 km/h, un peu chaud, dans une zone de 60. Il n'y avait pas de ceinture. Il s'est tué. Et il y a un rapport du coroner qui fait état de cette situation-là et surtout fait des recommandations à l'effet que ben, peut-être que ce n'est pas une bonne idée de garder les appareils seulement que 3 ans. Et pour en parler, je vais justement aller rejoindre la coroner. Son nom, André Cronstrom, est avec moi. Bonjour, madame.
Bonjour.
Ben, merci d'être là. J'ai fait une courte,
ben,
courte...
Ça me fait...
Oui?
Oui, non, mais je voulais juste simplement vous remercier parce que je suis de Québec. Donc, ça me fait plaisir de que ma voix soit portée jusqu'en Outaouais.
Mais surtout, le message que vous lancez est important, je crois, parce que là, en plus, on arrive dans une période, mettons, chaude demain, avec l'arrivée là, de d'autres substances. Et la question de la conduite de véhicule avec les facultés affaiblies, c'est important. Et on a le cas d'un homme, d'un jeune homme, qui a perdu la vie, puis vous faites des recommandations. Et ce qui est intéressant dans ce que vous allez nous raconter, c'est que le gouvernement a prêté une oreille attentive à ce genre de recommandations-là. Mais on est encore en attente. Alors, expliquez-moi tout cela.
Bien, écoutez, tout d'abord, on est dans le cadre d'une enquête publique, donc pas une investigation, mais une enquête publique où j'ai entendu différents témoins, des proches de M. Barr, mais également des un expert et des représentants de la SAC pour avoir un portrait là, de la récidive, parce qu'on est dans un contexte de récidive. Ce qui est important de dire aussi, c'est que M. Barr, au moment de son décès, était en état d'ébriété. Il venait justement de... ça faisait quelques semaines qu'il avait eu son permis régulier, donc après une période d'éthylomètre volontaire, d'éthylomètre aussi forcé, obligatoire par la SAC. Là, il avait comme, entre parenthèses, purgé sa sentence. C'était fini, sa sentence administrative. Donc, il reprenait pleinement ses droits. Et donc, c'est arrivé dans un contexte où il était sous l'effet de l'alcool, probablement distrait par son cellulaire, vitesse et non pas de la ceinture de sécurité.
C'est
donc,
ça.
C'est un ensemble de facteurs qui ont contribué à son décès.
Ouais.
Moi, j'ai fait des recommandations pour chacun de ces éléments-là, mais surtout après les audiences publiques, on est arrivé, le gouvernement est arrivé, ministère des Transports qui régule, qui gère le code de la sécurité routière, avec un projet de loi pour modifier plusieurs articles du code de la sécurité routière, notamment en ce qui a trait à l'utilisation du cellulaire, le port de la ceinture et la vitesse pour être plus sévère, et également une disposition qui a un petit peu passé sous silence ou bien qu'on pensait qu'il était en application, c'est l'éthylomètre pour une période minimale de 10 ans.
Ben oui.
Et la possibilité aussi que pour étudier après 10 ans, voir si la personne est encore à risque ou pas, c'est que les données qui sont enregistrées dans la boîte noire de l'éthylomètre soit transmis à la SAC. Parce qu'avant, ce n'était pas possible à cause de des lois d'accès. Maintenant, ces dispositions-là font que la SAC va pouvoir, ben je vais parler au futur parce que ce n'est pas encore en application, va pouvoir obtenir un portrait le plus fidèle possible et cibler les personnes à risque de celles qui sont plus à risque. Donc, ces dispositions-là, ils ne sont pas encore en vigueur. Et c'est ça. Et c'est le but d'une de mes recommandations, c'est que la SAC termine le plus rapidement possible les travaux requis pour que le gouvernement décrète la mise en vigueur des mesures concernant l'antidémarreur éthylométrique.
OK. Je veux juste comprendre quelque chose. Aujourd'hui, là, on force la présence de l'antidémarreur pour un récidiviste. C'est bien ça?
Oui.
Alors, si quelqu'un qui s'est fait prendre une deuxième fois en état d'ébriété, lui, on y force ou la première fois?
La récidive, c'est comme M. Barr, c'est que lui a été pris deux fois. Donc, à la deuxième fois, il y aurait eu les kilomètres à vie.
À vie?
Ben, avis. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire qu'il l'aurait eu pour un mini. On parle de avis, entre guillemets, c'est pour une période minimale de 10 ans, puis après ça, on réévalue le cas, là.
Ouais. Mais ça, c'est si on applique les dispositions qui sont dans le nouveau code, là, ça.
Oui, c'est ça, les nouvelles dispositions.
C'est ça, mais c'est pas là encore. Mais donc, présentement, c'est 3 ans?
Présentement, oui, c'est 3 ans. Attendez un petit peu.
Okay.
Voyez-vous, là, faut parce que c'est assez complexe. Là, à mon rapport, c'était une période obligatoire. Oui, c'est ça, c'est 3 ans pour lui parce que c'était du 31 mars 2010 au 1er avril 2013.
Ok. Donc 3 ans présentement. La modification du Code de la sécurité routière fait en sorte qu'on va passer à 10 ans minimum. Ce que je tente de comprendre, c'est que vous m'expliquez que la SAC, il reste des travaux à faire avant qu'on puisse mettre en vigueur cette disposition-là. Qu'est-ce qu'on doit faire à la SAC? Quels travaux? Il me semble que c'est un no-brainer. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Ça, il faudrait vraiment vous adresser à la SAC parce que ces travaux-là ont été, les dispositions législatives ont été, et c'est pour ça que moi j'attendais pour que mon rapport soit en phase avec les nouvelles dispositions législatives. Il a fallu que j'attende que ces articles-là soient mis en vigueur ou allaient être mis en vigueur pour faire mes recommandations. Donc, les travaux de mon enquête étaient terminés.
Okay.
Donc, ça, il faudrait vraiment, vraiment diriger les questions au niveau de la SAC.
Et vous suggérez également, on va se quitter là-dessus, vous suggérez aussi à la SAC de mieux faire connaître le processus de dénonciation.
Oui.
Expliquez-moi ça.
Tout à fait. Mais ça s'inscrit dans un ensemble de mesures. On a des mesures coercitives, mais aussi des mesures de sensibilisation, les publicités pour. Puis aussi, on a cet outil-là qui est la dénonciation, c'est-à-dire que si moi, j'ai dans mon environnement un conducteur que je sais peut-être qui conduit avec les facultés affaiblies, ben, je peux le, par n'importe quelle substance, je peux le dire à la SAC et elle verra à faire une enquête pour vérifier si effectivement il y a un risque entre ces problèmes de consommation et la conduite automobile. Présentement, et moi j'ai fait l'exercice après les audiences publiques parce que des fois c'est pas toujours facile en enquête publique de faire ça, de prendre le téléphone ou d'aller sur le site internet de la SAC, et c'est pas facile de s'y retrouver, de voir qu'on peut dénoncer puis comment le faire, c'est pas évident. Alors donc, d'où la recommandation, mieux faire connaître la dénonciation et la facilité par de meilleurs outils.
Et donc, je comprends que c'est une dénonciation à la SAC, pas au corps policier, puis c'est une dénonciation anonyme?
Oui, tout à fait, c'est ce qu'on me dit. Maintenant, comme un autre journaliste m'a posé la question, c'est qu'un n'empêche pas l'autre. C'est sûr que si je suis en train de voir une infraction se commettre, ben, je peux appeler là, le service de police sans aucun problème. Mais si, par contre, j'ai des doutes, mais que la personne n'est pas sur la voie publique en ce moment, ben, j'ai un autre outil, c'est-à-dire la dénonciation. Et ce qui permet à la SAC, parce que la SAC est venue, ben, ça fait un sens, là. La sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Donc, avec ce slogan-là, ben, on voit bien que la dénonciation, là, s'attache bien à ce principe-là.
Très bien. Merci de ces précisions. Merci beaucoup.
Ça me fait très plaisir.
OK, à la prochaine. Merci.
À
alors,
la prochaine.
André Kronstrom, elle est coroner.